Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et on démarre cette émission au sommaire aujourd'hui avec notre spécial Darknet sur mer, la fiction événement qui vient tout juste de sortir sur Amazon Prime, tourné chez nous en plus en Nouvelle-Aquitaine du côté de la Charente-Maritime. On va recevoir aujourd'hui pour en parler les deux réalisateurs, Julien Ouart et Rémi Four, qui seront accompagnés de Artus, Ariel Mallet et Joséphine Dray, qui seront nos invités. En fin d'émission, Gilles et Ben également seront avec nous. Gilles Alma et Benoît Joubert sont en tournée partout en France et à l'Apollo Théâtre à Paris jusqu'au 29 décembre pour leur tout premier spectacle en duo. On va les retrouver évidemment en fin d'émission pour en parler. Et il y a plein de dates en plus qui nous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on va également parler évidemment d'Octobre Rose à travers le souffle du dragon, la fiction événement d'M6. On aura toute une partie de l'équipe aujourd'hui avec nous. Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, mais aussi Lola Devers, Juliette Trezanini, Christophe Hérault et Ariel Mallet qui reviendra du coup également puisqu'il est aussi à l'affiche du souffle du dragon. Elle joue mère et fille dans la série Si tout commence. Ça sera l'événement aujourd'hui aussi avec Florence Coste et Axel Dodier qui seront avec nous, alias Laetitia Rigaud et Kelly Rigaud. Elles seront donc avec nous également dans nos coups de cœur télé. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre sortie Amazon Prime cette semaine, ça vient juste de sortir. Depuis vendredi, vous allez pouvoir découvrir Darknet sur mer, la nouvelle production Amazon Prime réalisée par Julien Ouart et Rémi Four qui sont avec nous. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Merci d'être avec nous. Et un des héros de cette série, c'est Artus qui est là avec nous. Bonjour Artus.
Bonjour.
Julien et Rémi, d'où est venue cette idée déjà?
Eh ben, c'est parti d'un article relatant, un article sur Internet qui racontait, qui parlait d'une arnaque mise au point sur Internet d'un site de tueur à gages. Et l'article prenait le parti de le dénoncer, de dire que c'était probablement bidon parce que, effectivement, qui va se plaindre que le contrat n'a pas été fait? On va pas se plaindre à la police si on a demandé un tueur à gages et que la personne n'est pas morte. Et on s'est amusé à imaginer qui pouvait être derrière ce genre d'arnaque. Probablement pas des vrais tueurs, mais sûrement deux geeks derrière leur ordinateur. Ça nous a donné un peu la base de la série. Et ensuite, c'est un ping-pong, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on écrit. C'est un ping-pong des nouvelles idées, des nouveaux personnages, des gangsters.
Alors Julien, c'était un travail à quatre mains. Vous avez réalisé ces 6 épisodes, hein, je crois, de 30 minutes qui ont été tournés dans la région. Pourquoi avoir choisi Rochefort, justement, et la région de la Nouvelle-Aquitaine pour ce tournage?
Dès le début, nous, on avait envie d'avoir un vrai décor. On pensait déjà à Fargo, des frères Coen, où la ville a une vraie identité, un vrai rôle à jouer dans le film, et on voulait reproduire un petit peu ça. Et on voulait un bled, mais on voulait un bled au bord de la mer, et on voulait recréer une atmosphère, une vraie ambiance, du coup un peu marine. Et on voulait quelque chose aussi de sombre, parce que bah, ça reste un polar, et qu'on avait envie de quelque chose un peu gris, un peu pesant. Donc on a envisagé pas mal de coins, la Normandie, la Bretagne, les Charentes. Et au final, notre choix s'est posé sur la Charente-Maritime, et notamment une petite ville qui s'appelle Maran. On les salue là-bas. Parce qu'il y avait un truc dans l'architecture qui était à la fois pas hyper touristique, fun. Et nous, notre village de Poney-sur-Mer dans la série, c'est quelque chose où c'est un lieu où s'ennuient un peu nos héros. Et en même temps, cinégénique, quoi. On avait envie de filmer ça avec de la pierre, voilà, des choses un petit peu plombantes. Et après, bon, bah, la ville est devenue un composite de plein d'endroits en Charente-Maritime, un peu La Rochelle, le port de La Rochelle, Rochefort, bien sûr, pour quelques endroits comme l'extérieur de la thalassothérapie. Et puis on a fait au montage un petit composite de tout ça, un petit mix pour recréer une ville imaginaire qui est celle de Poney-sur-Mer et qui joue un rôle important dans la série puisque c'est vraiment le décor du film et on a essayé de le développer un petit peu, quoi, visuellement.
Donc on a choisi cette région parce que c'est moche, qu'il fait gris. C'est ça que t'es en train de dire.
Tu la vends bien déjà que toi, le premier jour de tournage, tu te balades dans Rochefort et tu demandes tout simplement si le confinement était pas terminé à Rochefort. Si, on te rassure. On se souvient de cette petite vidéo que t'as fait quand même au premier jour de tournage.
Je l'assume totalement. J'étais dans une rue un lundi après-midi, on était deux. Donc oui, pour le coup, c'était... J'ai pas demandé aux gens de partir de la rue pour faire la vidéo, hein.
Rochefort est vraiment une ville très très belle et qui, bon, voilà, qui a beaucoup de charme. L'hiver, c'est vrai que c'est pas la ville où il y a le plus d'ambiance. Non. Mais ça permettait de se concentrer, je pense, de rester dans le rôle. Et sauf pour ceux, certains sont partis un petit peu à La Rochelle, des fois, de temps en temps.
Bon, Alkan, c'est qui ? Raconte, Artus.
Alkan, c'est un mafieux albanais, sur le papier, en tout cas. Mais lui, il n'a jamais tué personne, donc il a toute la panoplie du mafieux albanais, mais sans avoir sans en tout cas jamais se salir les mains et sans tuer personne. C'est un vrai gentil, en fait, mais qui travaille pour la mafia albanaise, sauf qu'il va avoir un contrat il va falloir qu'il bute un mec. Évidemment, il sait pas faire, donc c'est pour ça qu'il va aller sur le Darknet et qu'il va se faire arnaquer par nos deux petits geeks. Donc il va décider de venir se venger.
Nous, dans l'écriture, on avait envie de faire de ce personnage. On s'est inspiré de Steve Carell aussi dans 40 ans toujours plus haut. Donc c'était un film de Judd Apatow où le héros, voilà, 40 ans et il essaye de cacher à tout le monde qu'il a jamais eu de rapport sexuel. Et on a un peu bâti le personnage d'Alkan sur ce modèle-là. Sur quelqu'un qui a un secret un peu honteux, notamment dans son univers qui est celui de la mafia, on le chambre un peu, on se fout de sa gueule, et puis il va falloir qu'il passe un cap, et est-ce qu'il va y arriver, ça on le saura à la fin de 6 épisodes.
Exactement, c'est bien résumé, ça te va, Artus ?
Ça me va très bien, c'est exactement ce que j'allais dire.
Merci en tout cas Julien, merci Rémi, merci Artus, on va écouter la bande-annonce de Darknet sur mer, juste après Ariel Mallet et Joséphine Drey nous rejoignent pour la suite, et on continue à parler de cette série Amazon Prime depuis vendredi, qui est en ligne. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci Alain.
Merci.
Pour terminer ce top 5 des debunks du Darknet, je vais vous parler d'un site incroyable qui propose des services de la mafia albanaise. Regardez, je vous mens pas, hein.
Yes, ça va faire du bruit. C'est fini l'époque du boutonneux. On a eu peur du monde pendant trop longtemps. Maintenant, c'est au monde d'avoir peur de nous.
Alkan, tu vas les descendre, c'est ça le plèche.
C'est-à-dire ?
T'as jamais...
Mais bien sûr, j'ai tué...
T'as un flingue, toi, maintenant.
Vous tous, vous avez grandi en Albanie, c'est quand même plus facile, quoi.
Écoute, Alkan.
Première fois, c'est difficile. Après, facile.
Je vais vous buter, bande d'enculés.
Si je vous dis le Darknet, ça vous parle ?
Le Dark quoi ?
C'est eux.
C'est pas possible.
Pourquoi ils nous cherchent ?
Flo, respire à fond.
On fait un métier passion, tu te rends compte de la chance qu'on a ? Oh ! On se réveille, on tue des gens, on raquette des gens.
Et on va continuer à parler de Darknet sur mer, la série tournée dans notre région, dans notre département de la Charente-Maritime. Et on va continuer avec Joséphine Drey et Ariel Mallet qui sont avec nous maintenant. Bonjour à tous les deux.
Salut Alain, comment ça va ?
Bonjour.
Ça va très très bien. Bonjour. Je suis très heureux de vous avoir. Alors Joséphine, moi je suis fan, Joséphine, mais que j'aime plein cœur. Mais c'est génial comme série.
Et c'est génial, et ce qui est marrant, c'est que le rôle dans Darknet sur mer est complètement à l'opposé. C'est complètement un autre univers.
Mais tu joues une flic barrée, on peut dire, mais franchement, mais elle m'a fait beaucoup rire en tout cas, elle est complètement dans son monde.
Dans son truc, mais ce qui est marrant, c'est que personne, là, c'est un peu Pierre et Loulou, personne la croit toute l'année, elle dit, elle veut qu'il se passe quelque chose à tout prix dans son petit village où il se passe jamais rien, et pour une fois qu'il va se passer quelque chose, évidemment, personne va la croire et elle va devoir du coup être toute seule à ramer dans son coin alors que tout le monde la prend quand même pour la folle de service. C'est vrai que c'est drôle, elle est trop à fond, quoi. J'ai adoré le côté trop à fond du personnage.
Non mais complètement.
Est-ce que c'est une vraie composition, Joséphine ? Je te pose la question, moi qui te connais dans la vie. Est-ce que tu n'es pas beaucoup à fond dans la vie aussi, hein ? Est-ce que ce n'est pas la preuve, cette série, que tu peux jouer toutes sortes de rôles ?
T'as vu qu'il prendrait presque un petit accent albanais en parlant, là, rien que de parler de Darknet sur mer.
Ton personnage est tellement de la composition pure que là, pour le coup, c'est lui, il est méconnaissable carrément. On est sur une composition parfaite et parfaitement exécutée. n'est-ce pas?
Ah, merci, merci. Entre copains, on sait se dire des mots gentils. Moi, je me suis éclaté à jouer Mehmet la main verte, qui est une espèce de mafieux tueur à gages, qui est mais bon vivant en même temps, qui fait plein de blagues et qui hésite pas à flinguer les gens qui le dérangent, tu vois.
C'est sympa sans rire quand même, il fait des blagues sans rigoler. Hein.
Ouais, parce que tuer des gens, ça fait partie de son boulot, c'est pas un truc exceptionnel, tu vois. Il y en a qui ouvrent des huîtres et d'autres qui tuent des gens. Oui, et qui vendent de la drogue. Et Mehmet, c'était vraiment chouette de tourner dans Darknet sur mer avec nos deux chers réalisateurs ici présents, Julien Ouart et Rémi Four, qui ont su créer ce ton. Moi, ce que je trouve très réussi dans la série, c'est le ton de la série. Il y a des influences à la Frère Cohen, Fargo, tout ça. Et tenir cette note un petit peu dark, un petit peu drôle, mais un peu grinçante par moments, je trouve que c'est très dur à tenir. Et c'est ce qui est très réussi dans cette série.
Ouais. C'est une série qui mélange des genres et pour autant chaque genre est maîtrisé à 100%. Parce que souvent, dans des projets qui veulent mélanger les genres, il y a toujours un truc qui pêche. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui est plus faible. Et là, c'est maîtrisé. Quand c'est censé être drôle et c'est de la comédie, c'est très drôle et c'est très bien fait. Quand c'est de l'action, les images sont magnifiques, il y a le rythme et c'est crédible et ça fait pas cheap, etc. En fait, chaque intention est aboutie. Et c'est, je trouve, très rare dans les projets en général et encore plus dans les projets français.
Un personnage de flic dont tu t'es inspiré un peu pour incarner cette flic.
Harry prenait la référence de Fargo, oui, quand même, parce que oui. Et du coup, j'aime bien ces personnages qui sont seuls dans leur délire, en fait, et qui lâchent rien envers et contre tout. Et donc c'est l'énergie de ce personnage que j'ai trouvé intéressante et c'était une de mes influences. Mais après, c'était pas forcément, je me suis pas influencé au jour le jour pour construire le personnage. Je suis partie juste de comment moi je le ressentais, mais c'est vrai que souvent je pensais à ce personnage.
Bon, dernière question. Est-ce que notre région vous a plu? Pour tourner, est-ce que vous êtes amusé à Rochefort? Est-ce que vous avez eu l'occasion de venir tourner dans ce coin et qu'est-ce qui vous a plu?
Attention, déjà, attends, Rochefort hors saison déjà quand même, Rochefort hors saison, c'est un délire. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une personne au kilomètre carré. On va pas se leurrer quand même. C'était quand même très très calme, mais c'était du coup d'autant plus en immersion pour travailler. J'ai adoré la région, j'adore la région. Déjà en général, j'y vais en vacances et tout, donc j'ai tourné mon premier film quand j'avais 15 ans à l'île de Ré. Donc en plus c'est une région qui est chère à mon cœur par rapport à mon parcours même professionnel symboliquement et du coup c'est vrai que c'était assez calme mais dans le bon sens du terme. Du coup nous entre nous on se marrait, on faisait nos sorties, de temps en temps on allait sortir et tout, mais c'était quand même une atmosphère justement qui inspirait la paix, justement la concentration et avec justement on était devant sur le port, on dormait devant de sortir, avoir cette vue dès le matin, c'était hyper reposant je trouve.
Alors Rochefort, moi j'ai adoré personnellement. Moi j'aime bien la province, j'aime bien partir de chez moi. Ça casse la monotonie, c'est la chance de ce métier et surtout la chance de ce métier c'est de tourner avec des actrices exceptionnelles comme Joséphine Rail. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci.
C'est cher pour qu'ils disent ça, faut préciser.
Merci à tous les deux en tout cas d'être venus nous parler de Darknet sur mer, c'est à découvrir dès maintenant sur Prime. C'est l'événement, effectivement, série française. Et c'est bien parce que voilà, deux semaines de suite, on a eu Miskina la pauvre la semaine dernière. Et puis là, Darknet sur mer. Merci à tous les deux. On termine par un nouvel extrait de Darknet sur mer. C'est dès maintenant sur Amazon Prime.
Je vais prendre la tête de l'un pour la foutre dans le cul de l'autre.
L'équipe cagoulée, armée jusqu'aux dents.
On est vraiment débordé en ce moment. Et oui.
Attrape ces lits. Je l'ai.
Baisse-toi.
Qu'est-ce qu'on fait?
On a 24 heures pour trouver une solution, mon bête.
Ah ouais?
On va pas se mentir. Pas très calé, non?
Je suis sur un gros coup, là. Des gangsters albanais.
Arrête de te faire des films.
En plein prenez sur mer.
Et Ariel Mallet revient dans un instant pour le souffle du dragon. Il reste avec nous. On va parler évidemment de cette fiction événement. Florence Coste et Axel Daudier pour Ici Tout Commence vont être également ici avec nous. Et puis en fin d'émission, Gilles Alma et Benoît Joubert. On continue, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
T'as pour rien, une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner, ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Nous, on a pris une bombe dans la gueule. Et cette peur qui s'est installée en nous, avec laquelle maintenant nous devons vivre, nous a propulsés dans la vie.
Prête !
Mardi 11 octobre à 21h10, Le Souffle du Dragon, une création exclusive M6.
Allez, à l'occasion d'Octobre Rose, c'est le film événement de ce mois d'octobre sur M6, Le Souffle du Dragon. On a suivi le tournage sur les réseaux sociaux, elle était là le mois dernier avec nous pour son très beau film J'irai au bout de mes rêves. C'est Stéphanie Pilonka qui est aux manettes à nouveau à la réalisation, elle n'arrête plus. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et t'es entourée de toute une partie de ton casting, Juliette Trezanini qui est avec nous, qui est aussi une habituée de l'émission. Bonjour Juliette.
Bonjour Alain.
C'est bien, parce qu'on est qu'entre amis, Lola Devers. Bonjour Lola.
Mais bonjour mon cher Alain.
Merci d'être avec nous. Et encore deux habitués aussi, Ariel Mallet et Christophe Hérault. Franchement, t'as un don pour faire des castings impeccables, Stéphanie.
Ben merci de me donner la parole pour dire à quel point j'aime ce film. Et je trouve que ce qui est très réussi, c'est que c'est un vrai film choral, au sens où il n'y a pas une personne qui se dégage plus qu'une autre. On découvre un univers avec des familles, des couples, et il y a de la vie. La vie est très forte et c'est très émouvant. Moi, j'ai été personnellement bouleversé par ce film dans lequel je joue, c'est rare. J'étais heureux de participer à ce film.
Alors on parle du cancer dans ce film, mais de façon tellement lumineuse, comme tu sais si bien le faire, hein, dans les sujets à la fois que tu traites dans les films que tu réalises. Stéphanie.
Oui, on parle du cancer, mais on parle surtout de ces femmes qui font front, qui sont dans l'unité, qui sont dans la sororité et qui décident de se réemparer de leur vie pour défier la maladie, défier la société, défier leur douleur et pour renaître toutes ensemble de leurs cendres, on va dire, et continuer leur vie de manière différente, sous un prisme plus heureux, comme tous les gens qui ont vécu la douleur. Après, on envisage les choses avec peut-être plus de sagesse ou de philosophie.
Et qui peut mieux que pendant ce mois d'octobre, effectivement, avec Octobre Rose, proposer ce film événement. Bravo à M6, en tout cas, d'avoir su capter ce film pour cette période-là. C'est vraiment un point nommé, en tout cas, que ça arrive. Juliette, ton rôle en quelques mots.
C'est une caissière qui est très amie avec le personnage de Sandrine, interprétée par Julie de Bonnat, et qui est un petit bonbon et qui n'a pas vu que son amie avait tant souffert. Voilà, elle est passée à côté de ça, donc ça... Ça lui fait mal de voir qu'elle n'a pas pu être là pour elle.
C'est quelque chose qu'elle regrette, du coup.
C'est quelque chose qu'elle regrette. Là, j'ai larmes aux yeux parce que ça fait un peu écho en moi. Parfois, les gens qui traversent des épreuves comme ça ne le disent pas, peut-être par pudeur, pour ne pas encombrer leurs entourages. Et parfois, on passe un peu à côté. Et ce film nous rappelle que voilà, il n'y a rien de plus important que... Voilà, ça me touche beaucoup parce que personnellement, j'ai vécu ça dans ma famille. Et voilà, donc il faut être là pour les gens...
Oui, en fait, quand on a affaire à des gens dans notre entourage ou qu'on rencontre qui ont connu la maladie, donc ou qui ont connu des pertes, on n'ose souvent pas poser la question comment ça va. Et il y a souvent un isolement les gens qui ont connu la maladie sont souvent isolés parce que les gens n'osent tellement pas leur parler qu'ils se sentent seuls. Et c'est rare d'avoir des gens qui osent demander comment tu te sens, comment ça va. Parce que quand t'es malade, c'est dur de se projeter sur les mois à venir, surtout quand c'est très, très grave, ou quand la maladie prend vraiment le dessus. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est oser demander aux gens comment ils vont, oser leur demander comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont mal, qu'est-ce qu'ils ressentent. Voilà, c'est hyper important.
Même s'ils paraissent aller bien, souvent ça cache effectivement quelque chose. Et souvent, bah, quand on sait que des personnes ont des soucis et qui paraissent bien, bah, on n'ose pas, justement, ce que tu dis. Peut-être par plus tard de leur demander, de peur, voilà, peut-être de leur réaction. Mais voilà, il faut jamais, en tout cas, oublier qu'il y a des gens qui souffrent et puis que des fois, ben, de discuter, de parler, et ben, ça libère des fois. Ma chère Lola, ton rôle en quelques mots.
Mon rôle, c'est celui de l'assistante du docteur Cuvelier qui va initier voilà, cette thérapie. Donc je suis là, je suis un soutien psychologique, moral, une espèce de maman, on va dire, voilà, sur le bateau pour les filles. Et ce que je trouve très intéressant dans le film de Stéphanie, c'est qu'on traite de la mais de l'après. C'est-à-dire que aussi une fois que, par exemple, le personnage de Julie, ce couple qui vit bah, une réminiscence, enfin une guérison, il y a des problèmes de couple qui reviennent encore sur le pavé, alors que tout pourrait bien aller. Mais au contraire, ça crée des tensions, alors que l'épouse est guérie et que on sent une pression dans le couple, alors que tout devrait bien aller. Et je trouve que c'est vraiment un prisme très particulier du traitement de ce film, quoi. Et c'est pareil, le couple de Julie Gayet et d'Amaury de Crayoncourt, où la femme cache sa maladie pour pas emmerder son mec parce qu'elle a déjà pas pu lui donner d'enfant. On touche vraiment précisément à la femme, quoi, vraiment à tout ce que peut être la femme, cette donneuse d'enfants, cette donneuse de sexe, de séduction, qui passe par la poitrine, de confort, voilà, voilà, bravo.
Stéphanie, ton casting, tu l'avais déjà en tête quand tu as préparé ce film? Tu avais déjà une idée précise des personnes que tu voulais qui incarnent les rôles, en tout cas?
Oui, je savais exactement qui je voulais, ouais. Mais moi, je travaille toujours un peu avec les mêmes. Et après, j'aime bien découvrir des gens et les garder avec moi. Je viens du théâtre, ou j'aime bien l'esprit de théâtre, de troupe. C'est pas un truc d'être assuré, c'est truc, c'est suffisamment dur de faire nos métiers et c'est bien voilà, si on peut les faire tous ensemble et revivre chaque fois une aventure nouvelle, c'est chouette.
Ah, et puis mon petit doigt m'a dit que Juliette serait dans ton prochain d'ailleurs aussi. Arié, ton rôle en quelques mots aussi.
Alors moi je joue Eric, le mari de Julie Debona. J'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup supporté ma femme pendant sa maladie, sa chimio, ses traitements, tout ça. Et c'est lourd et moi je suis à un moment de... Ou au moment de la rémission, je baisse un petit peu les bras, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de profiter de la vie. Et c'est une thématique que je trouve très intéressante dans le film, c'est que le personnage de Sandrine, Julie Debona, a du mal à décrocher avec la maladie. C'est-à-dire que c'est comme si elle s'était construite une identité avec cette maladie et que sans cette maladie, elle n'arrivait plus à évoluer et vivre normalement. Et du coup, ça crée des dissonances, ça crée des incompréhensions, du malentendu, de la pudeur beaucoup. Qu'est-ce que devient le désir, l'amour? Quand une femme a eu le cancer du sein, c'est très dur de retrouver une intimité, une proximité, du désir. Et c'est ça qu'on explore et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ça avec Julie Debona. Et j'ai eu surtout beaucoup de plaisir à tourner sous la direction de l'incroyable Stéphanie Pilonka, qui est une très très bonne metteuse en scène, je tenais à le dire, mais Stéphanie c'est aussi une excellente actrice et ça, il y a peu de gens qui le savent et moi j'aimerais bien un jour jouer avec Stéphanie et voir ce qui se passe, parce que c'est vrai, parce que Stéphanie Pilonka, elle est actrice, elle a un peu mis de côté depuis quelques années ça, mais j'aimerais bien la rencontrer à cet endroit, voilà, le message est passé je crois.
En plus, elle est pas loin, ça tombe bien. Christophe, ton personnage à toi, j'ai bien compris donc que c'était le personnage du psychologue, de la thérapie du Dragon Boat, comme le film devait s'appeler d'ailleurs à la base. Hein, d'ailleurs.
Alors moi, je suis le médecin oncologue. Je suis le gars qui annonce pas que des bonnes nouvelles. Pas toujours, même pas souvent. En fait, c'est quelqu'un qui est confronté énormément à la solitude. J'ai eu, pour préparer le rôle, la chance de rencontrer le vrai docteur, instigateur de ce mouvement Dragon Boat, et qui s'appelle docteur Cutuli. Qui a un type assez exceptionnel, une grande simplicité, une grande humilité, et avec qui on a parlé très simplement, et on a beaucoup parlé de solitude. Parce que dans la vie, il y a toujours un moment dans la maladie où on est seul face à soi-même. C'est le défi que redresse ce film, c'est qu'en fait, il montre qu'au travers d'une thérapie de groupe, qui s'appelle Dragon Boat. Les gens finissent par s'unir dans unir leur solitude dans un effet de un élan de groupe quoi qui en plus leur fait du bien physiquement. Et ça qui est super touchant, c'est qu'à la fin cette victoire qui apporte beaucoup de joie dans le film est en même temps très poignante et nous a tous fait pleurer. Enfin bon, à l'un des moments du film parce que je veux dire que tout le monde pleure un peu tout le temps. Enfin je parle de ceux qui le regardent. J'ai un privilège de jouer avec un casting pareil parce qu'il y a quand même un sacré casting. L'histoire est belle et les valeurs sont fortes, donc forcément le cocktail est étonnant quoi.
Stéphanie, on évoque le reste de ton casting. Il y a Julie Debona, il y a Fermin Richard. Enfin, il y a des personnes incroyables. Tu t'es, en tout cas, encore une fois, de plus très très bien entouré. J'ai hâte déjà de voir ton prochain projet. En attendant, Le Souffle du Dragon, c'est demain sur M6 et c'est à 21h10. On ne le rate pas. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous. Merci Lola.
Merci mon cher Alain.
Merci beaucoup Juliette.
Merci mon cher Alain.
Merci Christophe, merci Arié.
Merci Alain Jeanne.
Merci Alain.
Et merci Stéphanie, on se dit à très vite.
À très vite, merci pour ton soutien de toujours Alain.
Savez-vous que le cœur d'une femme bat 1,05 fois plus vite que celui d'un homme? Un type à l'hosto a dit que ça expliquerait notre impulsivité. J'ai senti qu'il avait envie de dire hystérie, mais il n'a pas osé. Bref, hystérie ou pas, nous, on a pris une bombe dans la gueule. Et cette peur qui s'est installée en nous, avec laquelle maintenant nous devons vivre, nous a propulsés dans la vie. Nous, les princesses ordinaires, qui armées d'une simple épée de bois, s'en vont terrasser le dragon.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va mettre les personnages d'ici, tout commence à l'honneur, vous le savez, tout au long des semaines. C'est une série qu'on suit tout au long de l'année, justement, et qu'on soutient. Et bien évidemment, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h30. Et c'est Axel Daudier qui est avec nous aujourd'hui, qui joue le rôle de Kelly. Bonjour Axel.
Bien bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il lui en est arrivé, hein, Kelly, elle a tout fait. Elle a triché contre bon gré mal gré pour arriver à faire son concours d'entrée. Elle a une mère qui l'aide pas forcément toujours forcément. Ça n'a pas été facile, simple, mais aujourd'hui c'est une élève accomplie et une des meilleures cuisinières de l'institut.
C'est un très bon résumé, j'adore ce résumé, il est extrêmement bien. Non, oui, c'est ça, c'est un personnage plein de rebondissements, elle n'a pas eu un chemin facile, mais disons que ce chemin était très mouvementé et au final, avec une belle finalité. Enfin, finalité qui n'est pas du tout finalité, mais en tout cas, là, pour l'instant, tout va très bien pour elle.
Alors, est-ce que toi, la cuisine, c'est un domaine qui te parlait un petit peu avant?
Pas du tout, je cuisine... bof, mais par contre j'adore bien manger. Ça par contre manger j'adore ça.
Tu dois être servi quand tu vois les plats défiler dans les scènes et tout, parce que tout est préparé par des chefs, hein. On ne trahit pas de secret en disant ça, mais ça doit vous donner l'eau à la bouche quand même.
Ah oui, ça nous donne l'eau à la bouche et des fois même ça arrive qu'on mange un petit peu ce qui est préparé, ça arrive.
Oui, quand il y a eu moins de scènes que prévu de tourner puis qu'il en reste, hein, tant qu'à faire, il faut pas se priver.
Ah bah autant se faire plaisir.
Alors Kelly, c'est une jeune fille aussi sensible et j'ai l'impression qu'elle est peut-être la plus sage des deux entre elle et sa mère.
Ah oui, que Kelly est plus raisonnable et ouais, plus mature que sa maman, oui oui, complètement.
C'est ton impression aussi?
Ah oui, 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 c'est, et puis je pense que c'est voulu, c'est entré, enfin, la relation fonctionne comme ça maintenant, mais non, et justement, je trouve ça hyper touchant et hyper drôle aussi ce décalage qu'il y a entre les deux, de la jeune fille qui tempère la mère, et c'est hyper comique, et ça amène à des situations qui peuvent être et comiques, et dramatiques, et ça amène plein de choses, c'est hyper intéressant.
On a l'impression aussi que Kelly, c'était une jeune fille qui n'avait pas du tout conscience de son talent, qui n'avait pas du tout conscience, parce qu'aussi qu'elle savait cuisiner, qu'elle savait faire des bonnes choses, puisque au début c'est une jeune fille qui savait pas lire et qui a appris avec le personnage de Salomé, puisqu'on apprend que Salomé est ta tante aussi à un moment donné dans la série pour ceux qui ont suivi. Donc c'est vraiment un personnage qu'on a vu se révéler éclore au fur et à mesure des mois devant nous.
Ah oui, c'est ça. C'est une jeune fille qui n'était pas sûre d'elle et qui était remplie de doutes et qui n'avait pas toutes les cartes en main pour pouvoir accéder à certaines choses et qui au final, à force de courage, de détermination, de passion, réussit à faire ce qu'elle aime. Et justement, du coup, c'est un parcours hyper touchant et ça envoie un message d'espoir hyper beau, du coup.
Axel, t'as été surpris de voir ce succès incroyable qui est ici tout commence. T'as vu le regard changer des gens quand tu te balades dans la rue, quand ça c'est dingue pour une jeune fille de ton âge, on doit se dire putain, mais qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, je m'y attendais pas du tout. En même temps, je sais pas si on est vraiment préparé à ça, mais en tout cas, c'est que du positif et je suis chamboulée en permanence. Et oui, le regard des gens, il change, mais c'est tellement que de l'amour, c'est tellement que de la joie que du coup, c'est un mélange de, c'est un tourbillon de plein d'émotions, mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur.
Alors, si elle a trouvé l'âme sœur et un allié avec Lionel, il n'en est pas moins que cette année, la guerre des promos fait rage.
La guerre des promos, Kelly, alors pour l'instant en tout cas, elle est pas trop dans cet esprit de guerre entre promos. Oui, elle a quand même, elle trouve ça injuste et elle est en colère, mais disons que ce n'est pas la source principale de ses préoccupations en ce moment. Elle a d'autres chats à fouetter.
Alors quel chat à fouetter? Raconte un petit peu.
Alors Kelly, elle est en quête identitaire et donc du coup elle va vouloir savoir qui est son papa puisque Kelly pour l'instant n'a pas de papa connu et donc du coup elle va vouloir savoir qui il est pour se trouver en tant qu'être humain, en tant que femme.
Et sa mère va pas lui faciliter la tâche, évidemment.
Disons qu'il va y avoir quelques bouleversements entre les deux.
Est-ce que t'as une scène, t'en partages beaucoup pour le coup avec le personnage de Lionel et avec Florence Coste qui joue ta maman. Mais aujourd'hui, est-ce que t'as une scène marquante, un moment?
Il y a beaucoup de moments qui sont marquants. Là, une scène spontanément qui me vient en tête, c'est la scène du bal où Kelly se prend une poutre sur la jambe et qui a été assez dingue. C'était une atmosphère tellement impressionnante et je sais que j'ai pris un plaisir fou en tant que comédienne à interpréter cette scène, mais après il y a beaucoup de scènes qui m'ont marquée ou avec Laetitia, avec Lionel, qui étaient hyper touchantes et je pense qu'il y a vraiment plein de choses.
Quand t'es arrivée au château la première fois, tu t'es dit quoi?
J'étais hyper impressionnée. Je suis arrivée, la machine était déjà en route puisque je suis arrivée un peu en décalé par rapport aux autres et je suis arrivée dans cet endroit où il y a des centaines de personnes et où tout le monde va vite et où le décor est tellement grandiose, impressionnant et tellement beau. J'étais hyper impressionnée et vraiment je me touchais pour me dire c'est réel, ça arrive vraiment. Non, c'était trop bien, c'était fou.
Ah oui, parce que pour resituer un petit peu quand même l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être le début ou qui ont pris Si tu commences il n'y a pas très longtemps, quand t'es arrivé avec ta mère, vous êtes installé, ta mère était censée être embauchée pour être femme de ménage au tout début dans l'institut. Ça a démarré sur un mensonge, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas arrivé là par hasard, on l'a découvert par la suite et donc maintenant elle se trouve être l'assistante de direction au fur et à mesure. Mais voilà, pour situer un peu l'historique quand même de la famille Rigaud.
Oui, en fait, c'est ça, quand Kelly et Laetitia sont arrivées dans la série, du coup, oui, c'est ça, femme de ménage, Kelly avait 16 ans, elle ne savait pas lire, et donc, du coup, sa mère, un peu mythomane, hein, qui aime bien les mensonges, raconte, parce qu'elle ne veut pas assumer qu'elle a une fille aussi jeune, et donc, du coup, elle raconte qu'elles sont sœurs. Sauf que ça va pas durer très très longtemps, on va vite savoir que, en fait, c'est sa mère, voilà.
Et qui va lui en faire voir un petit peu de toutes les couleurs quand même, malgré tout. Même si on a l'impression que ça s'apaise un petit peu quand même, là, ces derniers temps.
Oui, et puis c'est une relation, même si c'est un peu conflictuel et qu'elle se chamaille un peu, c'est une relation avant tout...
Mère-fille attachante, moi je trouve aussi.
C'est une relation mère-fille fusionnelle. Mmh. Elles ont toujours été que toutes les deux. C'est une équipe, quoi. Elles comptent beaucoup l'une sur l'autre et elles s'adorent. Et c'est hyper touchant comme relation.
Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce qu'on commence à te proposer d'autres choses? Est-ce qu'on commence à te proposer d'autres rôles aussi qui pourraient t'échapper un peu de celui de Kelly?
Oui, ça arrive doucement. Même si déjà, avant de parler d'autres projets, ça apporte déjà énormément de choses en termes de projet tel qu'il est. C'est-à-dire que ça apporte une visibilité. On travaille beaucoup, c'est hyper intense. Humainement parlant, j'apprends plein de choses. En tant que comédienne, j'apprends plein de choses. Donc déjà, le projet en lui-même m'apporte beaucoup. Et après, oui, j'ai eu quelques... petite proposition à droite à gauche et peut-être même là en ce moment je suis sur quelques trucs, rien d'officiel pour l'instant, c'est pas signé, pour l'instant c'est Ici tout commence, mais en tout cas je suis trop contente d'être là pour tout ce que ça m'apporte.
Bah écoute, on te suit, nous, dans Ici tout commence tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 Axel, et on te retrouve dans le rôle de Kelly Rigaud pour de nouvelles aventures tout au long de cet automne où on va vous voir bien sûr. Merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup.
Il y a une réservation au nom de Armand. Rose Latour, la chef Armand et Louis.
Oh, le pouvoir des trois va se réformer.
Papa nous en a encore fait une belle.
Et cette lettre?
C'est quoi ces conneries-là?
Je vous avais dit qu'il se passerait un truc fou aujourd'hui. C'est
quoi ces recettes de malade là?
On va trouver ça dans la pièce secrète.
C'est sûr qu'on va se taper une malédiction. Prête?
Écoute Anaïs, des drames personnels on en vit tous. Moi ce qui m'intéresse, c'est que le resto éphémère roule.
Elle est où sérieux?
Inédit, ici tout commence. La semaine prochaine à 18h30 sur TF1.
Et on continue à parler d'ici tout commence, votre série que vous suivez sur TF1 du lundi au vendredi à 18h30 avec Florence Coste qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Florence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu joues le rôle de Laetitia Rigaud depuis maintenant de nombreux mois dans la série où le personnage est plutôt bien installé. Et si au début elle y était femme d'entretien, femme de ménage, eh bien aujourd'hui elle a pris du grade puisqu'elle est aujourd'hui assistante de direction. Que de chemin parcouru pour ce personnage de Laetitia.
Ouais, c'est vrai que c'est un personnage qui a beaucoup évolué sur tous les plans. Elle est arrivée sur la série avec beaucoup de problèmes, elle mentait beaucoup, elle faisait beaucoup de bêtises. Elle a mûri tout en gardant sa fantaisie. Moi, je prends beaucoup de plaisir à interpréter ce personnage et je trouve qu'elle permet d'avoir une large palette de jeux parce que voilà, elle a tellement de caractère et de fantaisie qu'elle permet beaucoup de comédie, mais elle a aussi des vrais enjeux avec son histoire, son passé, avec Kelly, etc., qui permettent aussi d'aller vers des choses plus dramatiques. Donc c'est vraiment un cadeau à jouer.
Je la définirais comme une douce rêveuse, Laetitia.
Oh oui, elle est fleur bleue, elle vit beaucoup dans l'imaginaire et elle apprend à être plus dans la réalité, à se rendre compte que dans la réalité, il se passe aussi de très belles choses. Mais pendant longtemps, la réalité n'était pas à la hauteur de tout ce dont elle rêvait. Et donc du coup, elle était obligée de s'échapper par l'imaginaire. C'est aussi pour ça qu'elle mentait autant. C'est parce qu'elle n'assumait pas qui elle était. Et c'est assez touchant de voir que maintenant, elle s'assume, qu'elle progresse professionnellement, que ses histoires d'amour fonctionnent mieux qu'avant. Bon, là, on est sur un échec avec Guillaume, mais elle passe des étapes et je suis sûre que la prochaine fois, ce sera la bonne. Et c'est vraiment une quête hyper importante pour elle de trouver un homme avec qui ça va bien se passer.
Donc... C'est Sony qui est venu bouleverser un petit peu tout cet équilibre amoureux qu'elle avait avec Guillaume, qui l'a fait se remettre en question, mine de rien, sur cette histoire qu'elle était en train de vivre, en tout cas avec Guillaume.
Mais en fait, c'est pas tellement le fait que Tony ait remis en question son amour pour Guillaume, c'est qu'en fait, Guillaume a réagi de manière inattendue à l'arrivée de Tony et sa jalousie a pris toute la place, en fait. Et ça a été compliqué à gérer et elle s'est rendue compte de...
C'était rédhibitoire pour Laetitia.
Oui, mais je pense que ça devrait être rédhibitoire pour beaucoup de femmes parce que c'était vraiment déplacé en fait son comportement parce que elle était très droite dans ce qu'elle voulait et qui elle aimait en fait. Elle était vraiment sûre qu'elle voulait être avec Guillaume et que Tony c'était juste un ami et qui lui rappelait une période de sa vie insouciante et tout ça, mais elle pensait pas du tout à concrétiser. Donc voilà, elle s'est éloignée de Guillaume par rapport à ça. Mais ça reste une très belle histoire et qui était une étape importante pour elle d'arriver à vivre cette chose-là avec lui.
Alors moi, je m'intéresse maintenant de plus près à Florence Coste. Comment tu as vécu cette notoriété soudaine? Toi qui as fait The Voice en plus, qui as fait des émissions de télé-crochet pour le coup aussi, qui avait déjà une petite notoriété. Est-ce que tu as vu le changement que pouvait avoir l'impact d'une série quotidienne? C'est assez dingue.
Ah mais c'est complètement dingue, c'est-à-dire que j'ai eu la chance aussi à travers les autres choses que j'ai faites, que ce soit très progressif en fait, le fait d'être exposé, d'être connu. Et là d'un coup, ici tout commence, ça a été un accélérateur assez fou. On le ressent beaucoup à Saint-Laurent-des-Gouzes parce que là les gens viennent exprès pour ça et nombreux, donc on sent cette notoriété.
Ça devient un village tournage hein, clairement.
Complètement, complètement. Et il y a une énergie assez folle. Dans la vie de tous les jours, c'est plus tranquille, mais on croise beaucoup de gens qui nous reconnaissent et qui sont... extrêmement sympathique. Enfin, le contact avec les gens est très agréable. On sent que c'est un programme qui leur fait du bien et je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin voilà, on sent que c'est un rendez-vous pour eux et que c'est important. C'est touchant en fait de se rendre compte que notre travail est à ce point suivi par les gens.
Alors si c'est un peu une pause amoureuse pour Laetitia, il n'en est pas moins qu'elle est bien sûr dans les intrigues aussi. Il y a une relation aussi avec sa fille Kelly que je trouve souvent très touchante.
C'est une des choses que je préfère dans tout ce que j'ai à interpréter, c'est mes scènes avec Axel. Déjà parce que je l'adore, mais humainement, artistiquement, vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle. Et cette relation est très belle parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'amour. C'est aussi plein de conflits parce que elles n'ont pas eu une vie facile, que Laetitia peut être maladroite dans sa manière de gérer la maternité aussi, et que parfois Kelly en a fait les frais. Mais là, ça s'est apaisé entre elles et on sent toujours, quelles que soient les situations qu'elles traversent, que voilà, c'est les deux contre le reste du monde et je trouve ça assez touchant comme relation.
qui attend Laetitia pour les semaines à venir, sans trop en dire trop?
Bah là, c'est la question de la paternité de Kelly, parce qu'avec le retour de Tony, elle va se poser plus que jamais des questions sur ses origines. Et autant avant, c'était acté qu'elle était seule avec sa fille, et voilà.
Et là, elle va tout faire pour connaître l'identité de son père.
Elle en a absolument besoin. C'est un truc qui la dépasse, et moi qui suis très réticente à ça parce que ça me terrifie, je vais être obligée de lâcher prise et de faire en sorte qu'elle rencontre son père, parce que elle en a besoin et je sais que c'est incontournable. Donc ça va bouleverser l'équilibre qu'on a réussi à créer.
T'as des projets pour la suite, Florence ?
Oui, je fais pas mal de théâtre. J'ai joué dans Titanic, une adaptation en comédie par la Compagnie des Moutons Noirs où je jouais Rose, c'était super.
Donc, ah ouais, carrément !
On est en tournée avec ce spectacle un peu partout en France. Il y a beaucoup de dates. Je les fais pas toutes parce que je suis beaucoup en tournage, mais dès que je peux m'échapper au théâtre, j'y cours. Je fais aussi une pièce sur Paris qui s'appelle Les Muses. C'est une comédie sur quatre œuvres d'art qui sortent de leur cadre et qui discutent entre elles de féminité, d'image de soi. Donc c'est très drôle et ça parle aussi de sujets très actuels. Je joue la Marilyn Monroe d'Andy Warhol dans cette pièce. Je suis hyper épanouie sur Ici tout commence, mais je pense que quand on a ce rythme et cet engagement dans le travail, on a aussi besoin d'aller travailler ailleurs pour revenir avec de la fraîcheur.
Et la musique, un petit album, ça te dirait pas, franchement?
Je pense qu'un jour j'y viendrai, je pense que c'est pas le moment. Pour l'instant, la musique, elle arrive ponctuellement sur mes projets de comédienne parce qu'on me demande souvent de chanter, que ce soit sur scène ou même dans ITC, j'aimerais bien repousser la chansonnette. Mais oui, je pense que l'album, j'y arriverai un jour. Mais c'est quelque chose artistiquement très engageant et très personnel, donc il faut trouver et le bon ton, le bon moment, tout ça, mais j'espère.
On sera là pour t'accompagner en tout cas. Merci beaucoup Florence d'avoir été avec nous. On te suit évidemment dans les aventures de Laetitia qu'on ne rate pas du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1 dans Ici tout commence. Merci beaucoup.
À très vite.
Tous les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Allez, le directeur de collection d'Ici tout commence est avec nous, Otman Mahfoud est là. Bonjour Otman.
Bonjour.
Directeur de collection depuis le premier jour d'Ici tout commence, qui est un succès incroyable depuis le premier épisode. On peut dire que ça a été un succès foudroyant.
Non, ça a été foudroyant. Alors, j'ai co-créé la série, donc je suis là depuis maintenant, j'ai commencé à travailler dessus il y a exactement 3 ans. Et alors j'étais pas directeur de collection tout de suite, je suis le nouveau directeur de collection d'ITC depuis maintenant 4 mois, donc pour cette nouvelle rentrée. Mais après j'étais directeur d'atelier séquencier, alors les postes sont très précis dans une quotidienne. Et je suis là, enfin j'ai travaillé sur tous les épisodes d'ITC depuis le début. Voilà.
C'est ça qui est génial. Alors Otman, la question qu'on peut tous se poser, c'est quoi un directeur de collection et en quoi consiste son rôle sur une série quotidienne, puisque c'est un rôle qui est indispensable, voire même un rôle clé, directeur de collection.
Alors, il faut savoir que donc pour écrire le scénario, on est une équipe de 30 auteurs qui est divisée donc en 3 parties. Il y a des gens qui font des arches, c'est-à-dire les histoires réellement sous forme de pitch, de synopsis. Il y a derrière ce qu'on appelle les gens qui sont en séquenciers, c'est-à-dire ils construisent les épisodes, et à la fin, on a une équipe qui est l'équipe des dialoguistes. Et au-dessus de tout ça, il y a, on va dire, le chef des auteurs, qui est le directeur de collection, qui lui, quelque part, en fait, doit à la fois coordonner tout le monde, mais aussi avoir la vision à long terme de la saison. C'est lui, quelque part, qui doit pousser tout le monde à construire la série pendant toute une saison. Donc c'est un job à plein temps, 6 jours.
Ça, je me doute.
7 jours sur 7. C'est un job qui demande réellement de pouvoir travailler avec les auteurs, en fait. C'est vraiment la clé d'un directeur de collection, c'est utiliser tous les talents qu'on a que j'ai avec moi, parce que j'ai des scénaristes hyper talentueux qui travaillent avec moi, et du coup c'est de coordonner tout ça. Après c'est hyper industrialisé, il me faudrait des heures pour vous expliquer la manière dont on travaille, parce que c'est vraiment très codifié. En fait, on a repris exactement la manière de travailler de plus belle, avec quelques changements, mais c'est très industrialisé. Il y a des rendus de texte à la même heure chaque semaine. Enfin, c'est assez. On est vraiment dans une industrie. Alors c'est comme si on sortait une nouvelle voiture tous les jours, mais
c'est millimétré.
C'est millimétré. Il n'y a aucun retard. Il n'y a aucun. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose, dans une chaîne de fabrication. On doit livrer 5 épisodes par semaine. Donc, vous imaginez le rythme que ça demande. Voilà.
Oui, parce que c'est un épisode par jour, du coup, il faut écrire. Donc, il intéresse que les auteurs, quand même, qu'il y ait plusieurs auteurs, qu'ils soient coordonnés aussi. C'est ça le rôle du directeur de collection, c'est s'assurer que les auteurs écrivent des intrigues qui vont pas venir en contradiction avec une intrigue qui a pu se faire il y a 6 mois. C'est aussi le but, que tout soit cohérent.
Alors, il faut savoir que sur ITC, c'est la même équipe depuis le début. Il y a eu très peu de départs, donc on est la même équipe d'auteurs, donc on a tous le feuilletonnant en tête. Après, le rôle du directeur de collection, c'est aussi de pousser à chaque fois les intrigues plus loin, d'aider les auteurs. Il y a un rôle un peu, des fois, ils se moquent de moi, les auteurs, ils me disent, on a l'impression que t'es le cabinet du docteur, c'est genre, j'ai un problème, et donc, j'ai les gens qui arrivent dans mon bureau, et ça s'enchaîne toute la journée, en fait, ils me disent, voilà, j'ai un problème là, comment on fait, etc. Après, il faut savoir que, sur la manière dont on construit les épisodes, c'est assez précis. On écrit toutes les intrigues de manière séparée et on les tisse ensemble le jeudi, aujourd'hui. Donc on commence le lundi, on a toutes les intrigues séparées sur les 5 épisodes de la semaine. Et le jeudi, on fait ce qu'on appelle, nous, le tissage et on tisse tout. Ça, c'est le directeur d'atelier qui le fait. Et après, moi, je fais une dernière repasse sur les séquenciers avant qu'ils soient envoyés à la chaîne. Et derrière, il y a encore la même démarche sur les dialogues. Donc c'est vraiment un truc qui se fait pas à pas. En fait, ce que ça demande d'un auteur, ça demande de pouvoir travailler très très vite. C'est ça, d'avoir des idées très rapidement. Et ça vient pas tout de suite. C'est un truc qui vient. Moi, je travaillais avant sur DNA, donc l'autre quotidien demain nous appartient, l'autre quotidienne. Ça m'a pris, donc là, moi, je dois être à, je sais pas, peut-être 800 épisodes de quotidienne, quelque chose comme ça. Donc à un moment, ça vient, mais ça demande un, je pense que le cerveau finit par se mettre en route pour faire ça, en fait. C'est assez dur, hein. Tout le monde peut pas travailler aussi rapidement sur des histoires. Quand vous imaginez les temps de développement sur des séries classiques, on est sur 1 an, 2 ans, 6 ans, 7 ans. Nous, on est réellement, on produit quasiment, je veux dire, une saison par semaine. Donc il y a quelque chose qui est assez, il y a l'adrénaline aussi, c'est pour ça que je pense qu'on le fait. Il y a un truc un petit peu tout le temps speed, etc., qui est pas mal quand on est auteur, parce que souvent c'est le temps est trop long quand on développe.
Voilà. C'est énergivore, c'est peut-être aussi ce qui explique que des fois il faut changer aussi, ou que des directeurs collection ou des auteurs changent ou s'en vont parce que le rythme est juste dingue. Le temps, là on est en octobre. Aujourd'hui vous êtes en train déjà d'imaginer les intrigues de quel mois ?
Là, on est sur les intrigues de janvier.
On a 4 mois d'avance à peu près sur les intrigues.
On a 4 mois d'avance sur la diffusion. Ce qui fait qu'on est tous un peu décalés. Même moi, Claire, comme j'ai travaillé sur Noël, pour vous dire, je suis tellement décalé que j'ai dit à un moment, j'avais pris un taxi et je lui ai dit, mais il n'y a pas de déco de Noël, parce que j'étais tellement dedans. Et le type m'a regardé comme si j'étais un fou, mais on est tellement dedans, tout le temps, tous les jours. Donc voilà, là on vient de finir Noël et on va aborder. Donc là on est dans le mois de janvier, dans les intrigues du mois de janvier. Donc vous imaginez le. Ouais, c'est vrai que.
Il sera tourné en novembre, quoi, en gros, là, à partir. Voilà.
Il sera tourné en novembre. Donc là on est dedans, post-Noël, et on sort de Noël. Bon, après, voilà, je peux pas non plus parler de ce qui va se passer, mais c'est assez marrant pour moi parce que c'est vrai que j'ai une vision plus lointaine, même sur tous les personnages, etc. Donc je regarde un peu les réactions des gens. C'est assez. Il y a un truc un peu amusant, c'est que voilà, je sais où on va. Les gens ne savent pas, donc il y a un truc un petit peu, voilà, on les emmène. Après, on les emmène dans une histoire, on les emmène dans des personnages, mais on a toujours travaillé un peu comme ça depuis les débuts.
Alors, les auteurs, ils doivent s'éclater avec un personnage, hein, parce qu'il a des répliques, mais tellement drôles, mais ça va tellement loin, et d'une tellement drôle, tellement forte, tellement méchante par moment, j'ai même pas besoin de donner son nom.
Oui, évidemment, oui, pour parler de Tessier.
Non, mais là, vous avez une imagination. Mais incroyable, et on se dit à chaque fois, mais le boulot des auteurs sur ce personnage, il est juste dingue, quoi.
En fait, le boulot, il était dingue au départ parce qu'il fallait le construire, mais ils ont un tel plaisir aujourd'hui, ils l'ont vraiment en bouche, et Benjamin Roche est un comédien vraiment exceptionnel.
Ils ont vu le potentiel qui pouvait aller très très loin, quoi, dans le jeu.
Oui, c'est ça. Il y a un moment où vous voyez le comédien, vous vous dites, voilà, là, je peux vraiment y aller parce que quoi que j'écrive, il va arriver à le tourner d'une manière qui va être vraiment hyper impactante. Il peut tout jouer, hein, Benjamin. Il peut jouer de la comédie, il peut jouer du drame, il peut tout faire. Et il a un truc aussi d'énergie avec les autres acteurs qui est incroyable. En fait, il donne beaucoup. Il arrive à s'adapter à quasiment tous les comédiens. Donc c'est assez fort.
Et dans sa méchanceté, moi, ce que je trouve le plus fort, que ce soit dans l'écriture ou dans son interprétation, c'est qu'il réussit à le rendre hyper attachant. Et aujourd'hui, c'est certainement méchant, c'est un grand mot, mais le plus aimé de France, quoi, parce que les gens l'adorent, les fans, mais l'adorent, ce personnage, quoi.
Non, je pense vraiment, sincèrement, mais j'en parlais avec lui, mais je pense pas qu'il y ait de méchant plus iconique de la télévision française aujourd'hui, parce qu'il a tout, en fait. Il est à la fois, il est tout le temps dans une zone grise, en fait. On sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. Mais nous, on en avait besoin de personnages comme ça dans ITC, comme c'est un huis clos. On avait besoin de personnages que réellement on puisse suivre tous les jours sans jamais s'ennuyer, en fait. Donc il nous fallait absolument. Après, le problème, c'était de les réussir. Mais on a eu, alors, on a écrit, etc. Mais on a eu aussi, Benjamin est quand même incroyable dans ce rôle-là, quoi. Il y a un truc qui est, on dirait qu'il a rencontré on dirait qu'on l'a écrit pour lui, en fait. Alors que voilà, à la base, quand on a commencé à écrire Tessier, Benjamin Baroche n'était pas encore casté. Après, sur les dialogues, les dialoguistes s'éclatent. Ils sont très, 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 très forts. On a quand même une équipe assez incroyable. C'est plutôt des jeunes scénaristes, ils ont un réellement. Comme on a beaucoup de liberté, que TF1 nous laisse beaucoup de liberté sur les dialogues, on a beaucoup plus de liberté que la plupart des séries françaises. On peut vraiment aller assez loin, en fait. Et quand vous regardez les dialogues de Tessier, c'est ça qui est un peu surprenant, je pense, aussi pour les gens. C'est que c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre dans d'autres fictions où on est beaucoup plus classique, où on sent que les choses sont plus normées. Nous, on est vraiment très libres. Donc, on va loin, loin, des fois, jamais trop loin. Mais voilà, évidemment, quand on a un personnage comme ça, c'est un plaisir. Mais je veux dire, à tous les niveaux, nous, comme on le travaille dessus depuis 3 ans, on sort des répliques de Tessier, tout le monde. Et après, les dialoguistes, eux, ont vraiment cette petite touche de génie, quoi. Il y a beaucoup de filles, mais elles ont toutes un style assez génial quand elles arrivent à le dialoguer, etc. Mais les dialogues sont franchement exceptionnels, hein, sur les TC. Enfin, de mon point de vue, je trouve que l'équipe dialoguiste est exceptionnelle, toute l'équipe d'écriture, mais c'est vrai que sur les dialoguistes, en fait, chaque étape, quelqu'un rajoute quelque chose en plus. Donc il y a un truc assez assez bluffant, parce que quand on est scénariste, c'est pas forcément le cas, hein. Des fois, on est un peu, voilà, ça s'affadit avec toutes les étapes. Et là, il y a vraiment un truc à chaque étape, je veux dire, jusqu'à la post-production, ça devient de mieux en mieux, de mieux en mieux. Donc oui, voilà, oui. C'est un immense plaisir. Les gens sont très, très heureux de travailler sur cette série, effectivement, parce que les personnages sont tellement savoureux à écrire que voilà, c'est un plaisir tous les jours.
Merci, Hotman, d'avoir été avec nous. Merci. Directeur de collection sur Ici Tout Commence. Bravo encore une fois au pôle d'auteur, parce qu'on s'ennuie jamais dans Ici Tout Commence. Et on suit la série du lundi au vendredi à 18h30. Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré à Simone, le voyage du siècle, qui sortira mercredi dans les salles, réalisé par Olivier Daon avec Elsa Zilberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez et bien d'autres encore. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies, le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste, toujours d'une brûlante actualité encore aujourd'hui. Olivier Daon, qui l'on doit évidemment aussi La Môme, le biopic de Edith Piaf, nous livre ici un portrait sans concession de cette femme qui a changé aujourd'hui évidemment l'avenir des femmes d'aujourd'hui. Donc voilà, bravo à Simone Veil, et puis on va suivre évidemment avec attention ce film au cinéma. C'est donc mercredi dans les salles. Voici tout de suite la bande-annonce.
Tu fais quoi?
Je crée le brouillon de ma vie. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
Partez !
Et pour partie, nous engageons l'avenir.
Nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin.
Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer.
Chérie, viens, viens !
Je suis fière de toi.
Et maman serait fière de toi.
Je félicite Madame Veil pour son élection.
L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place.
Votre travail, Madame Veil.
Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation.
Le FN veut mettre le bordel, faut partir.
Je reste.
Vous ne me faites pas peur. Pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous.
J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force.
Maman, regarde-moi!
Et mon modèle. Tous mes combats. C'est elle. Pour elle.
Et on va parler du très beau spectacle de Gilles Eben, Gilles Alma et Benoît Joubert ensemble sur scène et en tournée dans toute la France. Alors surtout ne bougez pas, c'est la dernière partie de Chut, on écoute la télé dans un instant.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Tu sais, je suis pas malheureux, sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se manquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles. ville. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre? Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Et puis qu'on vivra vieux. Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Ma main dans tes cheveux.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, il y a longtemps qu'on entend parler de ce spectacle. Je vous le dis, qu'on avait envie, effectivement, de vous mettre en avant. C'est le spectacle de Gilles Alma et Benoît Joubert. Gilles Eben sur scène. Gilles, tu nous en avais parlé il y a quelques années de ce projet dingue de vous retrouver tous les deux en duo. Parce que tu en avais marre d'être tout seul aussi sur scène. Et je suis très heureux de vous avoir tous les deux pour en parler. Bonjour Gilles et bonjour Benoît.
Coucou.
Bonjour à toi.
Merci d'être là avec nous. Alors, s'il y en a un qui cartonne en plus sur César Wagner, ça te laisse effectivement entre la tournée de ce spectacle, César Wagner, tous les projets que vous avez, les garçons, ça ne chôme pas en 2022, on peut le dire.
Ouais, ouais, écoute, j'ai de la chance. Voilà, j'ai enchaîné 4 mois de tournage non-stop là, et j'ai eu ainsi un 6x52 qui va s'appeler L'Abîme et qui sortira à la rentrée sur France Télé aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance de travailler et puis je travaille énormément donc en tournant et je m'amuse
énormément. En tournant aussi du coup partout en France.
En tournant en France avec avec moi, ma petite chérie Benoît Joubert. Et donc voilà, je suis un homme comblé.
Oh, c'est beau, il va me faire pleurer celui-là.
T'as vu ça? Alors comment c'est venu cette idée de faire un duo sur scène, de vous retrouver tous les deux sur scène? C'est une envie commune, qui a eu le déclic en premier?
Alors moi, j'étais persuadé de ce duo.
C'était un coup monté depuis le début. Voilà,
quand on s'est rencontré il y a 12 ans, il avait tout prévu, ce salopard. Voilà. Et j'y suis arrivé.
Non, mais en fait, si tu veux, moi j'avais un one man que Gilles produisait. Et Gilles avait son one man. Et les week-ends où je jouais pas, je venais faire sa première partie.
Je me souviens.
Et voilà. Et à la fin du spectacle, pendant 2 minutes, il me faisait revenir. On disait 2-3 vannes, très très vite fait, mais on sentait qu'on était bien tous les deux. Et c'est vrai que à deux, quand tu voyages comme ça, eh ben c'est des week-ends où tu t'amuses pendant, bien sûr, mais avant, après, et t'es pas seul, quoi. Et petit à petit, ben c'est Gilles à un moment donné qui a dit bon allez, on arrête un peu de se tourner autour et on y va.
On y va ensemble.
Et on conclut.
Voilà, c'est ça.
On conclut. J'en ai marre d'appeler mes enfants Bingo et Salaud et du coup, on va partir sur scène ensemble.
Ouais, ouais, exactement. Non, mais c'est ça, c'est une histoire. D'abord, c'est une histoire d'homme, d'amitié.
On s'est rencontrés il y a 12 ans sur un téléfilm pour France 3 qu'on tournait dans le Périgord. Et puis on faisait des gendarmes rugbyman homosexuels, alors que dans la vie on n'est pas du tout
gendarme, voilà. Même rugbyman, je te dirais même.
Et donc voilà, et donc voilà, et on est vraiment, on a eu un coup de foudre, alors amical, et on s'est pas lâché. Et puis voilà, après j'ai produit le spectacle de Ben, il m'en parlait, je lui ai mis un peu un coup de pied au cul parce qu'il en a besoin. Puis voilà, et les choses avancent avec bonheur.
Gilles et Ben, c'est partout, en tournée. En France, vous pourrez les voir d'ici la fin de l'année. Je suis sûr, près de chez vous. On va vous donner évidemment les dates sur lesquelles vous pourrez les voir, ces deux loustiques. Mais Gilles et Ben sur scène, ça donne quoi? C'est quoi? Racontez-moi. Il y a des personnages, vous racontez un peu vos vies, vous lancez un peu des punchlines, qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est une fiction. Je souhaite à personne de vivre le jour de son mariage comme on le présente. En fait, c'est la rencontre entre le duo humoristique et le théâtre. C'est un hybride, en fait. Donc, il y a un fil rouge, il y a toute une histoire. La mise en scène a été faite par Cartman. Donc, si on connaît Cartman et on connaît la patte de Cartman, mais
on va rigoler.
On la retrouve. Donc, il y a une histoire, des sketchs, des personnages, et plus aussi cette envie sur scène, comme il y a une amitié tous les deux, dans l'œil, essayer de se planter un petit peu, de s'amuser. Il y a beaucoup de complicité, et le public nous dit souvent on sent que vous vous amusez, on s'amuse avec vous. C'est un vrai partage, en fait. C'est ça, en fait, l'idée du spectacle.
T'avais besoin, Gilles. J'avais l'impression, moi, que jouer seul, des fois, ça pouvait te peser à terme, et que t'avais envie vraiment de partager une scène et de pouvoir justement partager des répliques, partager quelque chose.
Ouais, j'ai fait 5 ans de one man et j'étais arrivé un petit peu au bout aussi du truc, quoi. J'étais très content de mon dernier one man, un peu moins des premiers, mais j'étais très content de mon dernier one man et je crois que j'étais arrivé au bout. J'ai fait des belles dernières dates à Paris, je devais être capté par C8 et puis j'ai refusé parce que j'avais aussi cette idée de duo et c'est vrai qu'on a repris quelques répliques de nos spectacles respectifs avec Ben, faut pas, voilà, on n'est pas parti de zéro. Et donc je me suis dit, voilà, si un jour je dois vraiment cartonner. Non pas que mon one man a pas marché, mais si je dois vraiment cartonner, ce que je souhaite vraiment pour ce spectacle et je fais vraiment tout pour, ça sera ce duo.
Il y a des moments où des fois ça part en live, il y a un fou rire incontrôlé qui arrive sur scène.
Tous les soirs. Ah bah oui, c'est...
Lequel qui fait friser l'autre en premier généralement?
On a chacun nos styles, mais on arrive, comme tu dis, à se friser l'un et l'autre, hein, quand même. Hein. Ouais.
Je pense que j'arrive à plus le faire friser, oui, mais oui. C'est malgré moi.
Oui.
C'est-à-dire que
ça compte, oui.
Voilà, c'est-à-dire, il faut avouer la vérité. Je fais énormément de choses, donc je travaille moins que Benoît. C'est-à-dire que Benoît a beaucoup plus le spectacle en tête, et je refuse de travailler parce que ça crée quand même des sorties de route qui sont mémorables et qui nous font rire nous et qui font rire le public. Donc voilà, je ne travaille pas exprès.
Ah oui, le secret de Gilles, c'est surtout ne pas travailler.
Sur le spectacle,
attention. Hein, garder cette fraîcheur et je me dis, des fois, il est à côté, mais j'adore quand il est à côté comme ça, c'est extraordinaire. Et ça nous donne des moments.
Des moments magiques.
En tout cas, c'est le spectacle d'humour qu'il faut pas rater cette année. Si ça passe près de chez vous, Gilles et Ben, allez les voir. Franchement, vous allez vraiment rire. Je vous le dis. Et on va vous donner quelques dates. Alors, on va passer un peu à vos projets respectifs. Tu le disais, tu venais de terminer César Wagner. C'est un succès incroyable. À tel point que même pas 2 ans après la première diffusion, on rediffuse déjà les premiers épisodes. C'est assez dingue ce qui se passe autour de cette série qui s'amuse même à battre les émissions de variété de TF1. Enfin, c'est dingue.
Ouais, moi je m'entends bien avec Arthur, alors à chaque fois je lui mets une petite pige, donc le public suit cette série, je suis très heureux, on en a deux nouveaux que je viens de terminer, là le 10 juin dernier je viens de terminer de tourner ça. Ça va être plus drôle, on resserre, on met du rythme, on améliore. Donc voilà, ça me tient à cœur, tout le monde y met du sien, là on a eu un super réal, Bruno Garcia, on a des super guests.
Il est top Bruno, hein. Aussi.
Ouais, Bruno Garcia est extraordinaire. On a Julie Gaillet qui va venir faire une guest dans un épisode. Bruno Volkovitch, Patrick Chenet. Donc c'est du très très lourd. Et je remercie la production de me donner cette chance là aussi, de donner cette chance à la série. Et voilà, et donc on essaye de faire du bon boulot.
C'est chouette ça. Et puis César Wagner, c'est une série qui cartonne avec Olivia Cotte. Aussi évidemment, toujours ses phobies.
Ah oui, bien sûr.
Alors, on n'en serait pas César.
Oui, voilà, mais justement, je me suis dit, il faut accentuer, c'est ça qui est drôle, c'est ça qui fait le personnage, c'est ça qui fait la série. Et donc là, il va y avoir une enquête dans les Vosges. Donc pour lui, c'est juste une catastrophe de se déplacer, de se retrouver dans un endroit comme ça, très très néfaste pour lui, avec des moustiques, il y a 50 000 trucs qui vont pas. Et donc voilà, ça sera vraiment deux beaux épisodes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et si les gens suivent.
Nous, on a hâte de les découvrir à partir de la rentrée 2022. Benoît, pour toi?
Bon, moi, non, j'ai quelques petits projets, ouais. J'ai eu la chance de... C'est un projet Netflix, c'est une mini-série pour Netflix, produit, réalisé par Jean-Pascal Zadi, qui a fait Tout Simplement Noir. Donc, c'est une mini-série qui va s'appeler En Place. Et il y a Benoît Poulvord, Marina Foïs, il y a Éric Judor. Enfin, voilà. Et là, je me retrouve là-dedans, quoi. Donc, à mon échelle, quoi. Mais j'étais très content de faire ça. Et tu en as pas parlé aussi, j'ai participé là à l'Abîme, ça va s'appeler, le 6x52, où Gilles incarne encore une fois le personnage principal.
Allez, Gilles Eben, en tournée dans toute la France. Merci beaucoup Gilles Alma, Benoît Joubert d'avoir été avec nous pour parler de ce fabuleux spectacle et on vous dit à très bientôt.
Merci infiniment, t'es au top.
Merci beaucoup.
Ils ont vécu toute leur vie ensemble, j'aimerais faire pareil moi, voilà. Mais si, c'est magnifique. Moi, ma grand-mère, elle a rencontré mon grand-père, elle était en CE2.
Ouais, ton grand-père était instit. C'est lui qui me l'a dit. En entrée, c'est une farandole de grains humidifiés de céréales sur son lit de pétales de menthe citronnée,
accompagnée d'une brunoise et des légumes frais sous une pluie d'huile d'olive orientale.
Que dès la première bouchée, que c'est
du taboulé.
Faut pas le dire. Collègue à moi, un ancien collègue, à la morgue. Voilà, c'était le coiffeur maquilleur.
Donc Benoît nous l'a conseillé pour le mariage. Voilà, bon, c'est, je sais pas si c'est une bonne idée.
C'est le meilleur. Pour nous, c'est le Picasso des pompes funèbres. Et il n'a pas un seul retour client.
Et pour retrouver Benoît Joubert et Gilles Alma sur scène, Gilles Eben, ça tourne à l'Apollo Théâtre à Paris jusqu'au 29 décembre. Ça passera à l'Agora de Lac ce week-end le 16 octobre. Et ça passera à Tours le 10 novembre, à la Comédie de Toulouse le 23 novembre, à Mussidan en Dordogne le 20 janvier. Ça passera également à Royan le 16 février, à Châtelaillon le 11 mars en Charente-Maritime. Ça passera à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques le 1er avril, ainsi qu'au Trianon à Bordeaux le 22 avril. Et pour finir dans notre région, à la Reims, le 12 mai prochain.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand plaisir de consacrer une spéciale pour le téléfilm Bellefond qui débarque sur France 3. Stéphane Bern sera notre invité exceptionnel pour en parler aux côtés de ses deux réalisatrices. On aura le plaisir également de recevoir Michel Larocque qui viendra avec Pierre Corré nous parler de la sortie de Belle et Sébastien, Nouvelle Génération. On aura également Darknet sur mer dont on reparlera la semaine prochaine et puis plein d'autres surprises. Mais pour ça, restez connectés.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connectés avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connectés avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.